Simplement, j'ai laissé venir à moi les idées qui me venaient à propos, par exemple, de l'expression « je t'aime ».
Ça fait réfléchir, l'émission philosophique de Radio Campus Amiens.
Bonjour tout le monde, vous écoutez Radio Campus Amiens 87.7 FM et nous nous retrouvons pour le 10e épisode de l'émission Ça fait réfléchir, l'émission philosophique animée par moi-même, Julien, votre serviteur. Vous pourrez toujours retrouver cette émission sur radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. Pour commencer, je vous propose un bref rappel à propos de l'épisode précédent dans lequel nous avons discuté des sujets du bac de philo. Nous avions réfléchi sur les sujets proposés et avons donné quelques pistes pour les aborder. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur la littérature, sur les pouvoirs de la lecture et de l'écriture. Je suis avec Axel au studio. Bonjour Axel.
Bonjour.
Tu es étudiante en master de philosophie à Amiens et tu travailles justement sur la littérature. Qu'est-ce qui t'a amené à la littérature ?
Comparé aux personnes avec qui j'ai l'occasion de discuter dans ma promotion de master de philosophie, j'ai été amenée à lire beaucoup plus tard qu'elles et eux. Parce que lire, ça a toujours été quelque chose que je trouvais assez inaccessible. Enfin, la lecture, la littérature dite classique, ben, tout simplement les personnes qui auraient du mal à lire des gros textes très longs, ce genre de choses. Donc ça m'est venu bien plus tard, mais en fait j'ai découvert avec la lecture, notamment la littérature, de ce fait, un côté où en fait en tant que personne extérieure à ce que je lis, découvrir d'autres sociologies, d'autres points de vue aussi peut-être. Par exemple, moi j'ai le point de vue dans ma vie de tous les jours d'une jeune femme de 23 ans. Bah, dans la littérature, on peut découvrir par exemple le point de vue d'un homme de 40 ans, de tout un tas de personnes en fait, même une personne qui pourrait être plus aisée financièrement, quelqu'un de plus pauvre, etc. Et en fait, c'est cet aspect donc qu'on retrouve plus dans certains courants littéraires que d'autres, hein, mais de pouvoir observer aussi d'autres personnes dans d'autres cadres économiques, sociaux, et même de genre, de sexualité, de sexe, etc.
Donc d'après toi, par rapport à ce que tu dis là, c'est super intéressant parce que tu montres que lire, alors déjà la première chose c'est que lire c'est inaccessible. Enfin c'est que ça paraît inaccessible parce qu'on a cette idée de la littérature qui est très, très peut-être aussi scolaire.
Oui.
Quelque chose qui est réputé comme étant peut-être difficile aussi,
oui,
d'approche parce que, puis aussi peut-être parce que c'est peut-être plus accessible de regarder la télé que de lire des textes, ça demande peut-être plus d'énergie de lire, Et la deuxième chose que je trouve intéressante dans ta réponse, c'est cette idée d'ouverture à d'autres mondes. Cette idée que, moi je suis quelqu'un, j'ai une identité, et en lisant typiquement des textes littéraires, même des textes littéraires très classiques, en fait on arrive à s'ouvrir à d'autres perspectives. Est-ce que sur ce point-là, tu penses que la littérature aurait des pouvoirs ?
Oui, bien sûr. Déjà, je pense qu'il y a un grand pouvoir déjà esthétique, contemplatif dans la littérature. Rien que par la description d'un paysage, par exemple, vraiment se sentir imprégné de ce paysage. Bon, là, on sort un petit peu du côté sociologique que j'ai évoqué tout à l'heure, mais je pense que le point de vue esthétique est important aussi parce que c'est ça aussi qui peut faire apprécier la lecture, à mon sens. Voilà, par exemple, si on est dessinateur, par exemple, avoir une description d'une plage, par exemple, avec un coucher de soleil, etc., ça peut donner de l'inspiration pour dessiner, pour imaginer potentiellement un cadre, pour soi-même écrire aussi, potentiellement. Le simple fait de s'imaginer quelque chose, en fait, t'évoquais la télévision tout à l'heure, et en fait, je trouve ça intéressant aussi, par rapport à la télévision, où vraiment l'image, elle est donnée, on la reçoit directement. Dans la littérature, il y a quand même un effet qui fait qu'on l'imagination travaille beaucoup autour de ça, et je trouve ça vraiment merveilleux. Après, les autres pouvoirs de la littérature, bien sûr, ils peuvent être du coup politiques, de ce fait. Connaître les conditions de travail des ouvriers, par exemple. Un pouvoir de découverte du monde, en fait, qui, pour des raisons économiques, par exemple, ne serait pas accessible. Le voyage, ce genre de choses. En fait, pour moi, la lecture, c'est vraiment un voyage. Donc, si la littérature a bien un pouvoir, ce serait ce pouvoir de voyager que ce soit dans d'autres corps ou dans d'autres lieux.
D'accord, donc à ce moment-là, la littérature, ça serait une manière de s'évader, une manière de, ouais, de s'ouvrir. La littérature, ce serait une manière de s'ouvrir à d'autres perspectives corporelles, physiques.
Je pense qu'elle permet ça, oui.
Mm-hmm. Et aussi donc une ouverture à d'autres visions du travail et de la politique. Et justement, c'était là-dessus que je voulais rebondir. Est-ce que la littérature, ce ne serait pas aussi une manière de s'engager ou de découvrir des engagements politiques en particulier ?
Alors, sur l'engagement politique via la littérature, moi j'ai un avis avec lequel on peut ne pas forcément être d'accord. Mais en fait, je pense que sur le côté politique, en reprenant ce fait que la littérature soit quand même quelque chose d'assez inaccessible aujourd'hui, enfin qu'on s'imagine inaccessible surtout, la littérature, elle va, je pense, beaucoup parler à des gens qui peuvent être souvent déjà convaincus. Peu importe le bord politique, hein, je pense que souvent, quand on s'oriente vers certaines lectures, qu'elles soient littéraires ou philosophiques d'ailleurs, je pense que c'est qu'on est déjà un peu convaincu par l'aspect politique que le roman, l'essai politique, philosophique va donner. Je prends l'exemple de Germinal, de Zola. Ça m'étonnerait beaucoup, après j'admets pouvoir me tromper bien sûr, mais ça m'étonnerait beaucoup qu'on lise ça alors qu'on est soi-même financièrement aisé et qu'on on considère que si on est ouvrier, c'est qu'on n'a pas assez travaillé ou des choses comme ça.
Bah après, le paradoxe, en tout cas j'ai l'impression qu'il y a un paradoxe ici, c'est qu'il y a une difficulté, disons, de la lecture, de l'accessibilité de la lecture, et donc il y aurait déjà des conditions économiques, sociales, qui feraient qu'on serait, comme tu l'as dit, convaincu en fait, de ce qu'on lit avant même de le lire. C'est comme si on avait des sortes de préjugés. Mmh. Bah, c'est intéressant de le souligner, mais en même temps, c'est de la littérature qui peut aussi dénoncer, comme tu l'as dit avec l'exemple de Germinal, de Zola, une littérature qui pourrait aussi dénoncer des conditions de vie des ouvriers.
Absolument.
Et donc, il est là le paradoxe, c'est que pour lire, on a quand même peut-être besoin d'un terreau initial pour lire des choses qui concernent aussi parfois des gens qui n'ont pas ces conditions préalables. Donc, il y a parfois des paradoxes dans la littérature aujourd'hui. Alors, dans certaines formes de littérature aujourd'hui, et je pense notamment à la littérature féministe, peut-être qu'on peut penser à Annie Ernaux. Il me semble que tu as un peu lu Annie Ernaux. Qu'est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire un petit peu sur l'aspect politique ou féministe ?
Alors, j'en ai pas énormément lu, mais déjà, le simple fait que ce soit une femme qui écrit, je veux dire, même aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est quand même assez rare de voir une femme qui écrit et qui a du succès dans le monde de la littérature. C'est quand même un milieu d'hommes. Malheureusement, hein, je ne dis pas ça parce que je trouve ça bien, au contraire. C'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect de pouvoir se mettre aussi dans la peau et le ressenti d'une autre personne, se rendre compte au moins des difficultés que ça peut être d'être une femme aujourd'hui, et même avant aussi, je pense en fait que ça peut permettre de comprendre aussi certains points. Par exemple, dans le féminisme aujourd'hui, il y a quand même une phrase qui est assez courante, c'est de dire que les hommes sont privilégiés par rapport aux femmes. Donc ça fait bondir certains hommes. Ils disent « Mais comment ça ? Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de privilégié, je ne me sens pas privilégié, je travaille à l'usine, etc. » En fait, ce qu'il faut comprendre par ce mot de privilège, en fait, c'est que à situation sociale, financière égale, une femme et un homme, en fait, ne seront pas traités de la même manière. Et à partir de là, on peut parler de privilège. Lire, en fait, un ouvrage où le personnage principal serait une femme, avec tous les inconvénients que ça suppose, permet peut-être de comprendre mieux pourquoi on utilise aujourd'hui ce terme de privilège, notamment.
D'accord, je vois où tu veux en venir maintenant. Oui, effectivement, ce qui est important à souligner, d'une certaine façon, je ne fais que répéter ce que tu dis pour tout le monde, pour les auditrices et les auditeurs, c'est que dans le milieu de la littérature, dont on a l'impression que c'est un milieu un peu à part de la vie sociale, un peu comme en philosophie, hein. Les philosophes, les écrivains, peut-être même aussi d'une certaine façon les scientifiques, on a l'impression qu'ils sont un petit peu à part,
oui,
par rapport aux autres. Mais même dans ces milieux-là, de toute façon, il y a des inégalités de traitement qui,
bien sûr,
qui subsistent, qui résistent malheureusement à la critique. D'une certaine façon, ça permet aussi de mettre en avant la spécificité de l'acte d'écriture. Parce que quand on écrit, on n'est pas face à la personne.
Oui, bien sûr.
Quand on écrit, on n'est pas face à la personne. Alors que quand on parle, qu'on soit une femme ou un homme, effectivement, il y aura une inégalité de traitement. Mais quand on est à son bureau et quand on écrit, on a peut-être plus de temps pour réfléchir, pour penser, etc.
Exactement.
T'en penses quoi ?
Je vais un peu paraphraser ce que tu viens de dire, mais en fait, oui, moi, je suis intimement convaincue en fait, que dans la discussion entre deux individus ou plus, si on est dans un format de débat, déjà, il y a la question de l'ego qui parle et qui fait que face à un interlocuteur avec lequel on ne se sentirait pas forcément totalement en adéquation, il y a ce côté voilà, où l'ego parle en même temps que la discussion, en fait, qui fait qu'on va moins être enclin en fait, à donner raison à son interlocuteur ou son interlocutrice.
Mmh.
Alors que quand on lit, normalement, on est dans un cadre plus posé, on peut relire plusieurs fois la même phrase. Il y a moins d'adrénaline aussi dans la lecture. Bon, après, ça dépend quel genre de littérature, mais je pense qu'il y a ce côté plus calme, plus posé, plus réfléchi, même de la part de l'auteur ou de l'autrice. C'est-à-dire que les mots sont finement choisis, alors que dans la discussion, il y a ce côté un peu plus spontané qui, des fois, peut faire défaut aussi à ce qu'on a envie d'exprimer.
Ah, ça, c'est super intéressant, parce que dans la vie courante, quand on parle, quand on... Alors, je prends mon cas aussi, quand on enseigne, il y a des moments d'improvisation. Et quand il y a des moments d'improvisation, parfois, on dit des choses qu'on n'aurait pas eu envie de dire, etc. Et j'ai l'impression que l'une des grandes particularités de la littérature, c'est précisément d'avoir le choix des mots avec nous. Après, quand on parle, là, je suis en train de parler, toi aussi, tu parles, Axel, et on parle devant le micro, mais il y a un peu d'improvisation, il y a un peu de réflexion avant d'avoir enregistré, mais finalement, quand on écrit, c'est une autre activité peut-être qui est en train d'être faite avec le langage.
Oui, c'est vraiment deux activités différentes. Comme je suis en train de parler, je réfléchis quand même un peu plus posément à ce que je dis. Je ne veux pas dire n'importe quoi non plus. Alors que, bon, voilà, dans une discussion mondaine, voilà, autour d'une bière, en terrasse, je ferai moins attention à mon choix de mots parce que c'est un cadre plus détendu. Là, en fait, voilà, il y a en fait une sorte de gradation aussi dans la parole qui fait que, j'imagine, quand on enseigne aussi, qui fait qu'on est plus concentré sur ce qu'on dit, il y a un petit peu moins d'improvisation. Il y a quand même cette part de hasard, ce facteur un peu aléatoire qui sont les élèves.
Oui. Il y a un interlocuteur.
Voilà, et il y en a même 35 d'interlocuteurs.
Parfois, donc, oui, 35.
Parfois. Donc, il y a ce côté un peu aléatoire où il faut savoir reprendre ce qu'on a déjà dit tout en essayant d'expliquer un peu plus en détail, mais en même temps de rester concentré sur ce qu'on dit. Et pour moi, en fait, vraiment, l'écriture, c'est vraiment ce point culminant de la concentration dans le langage, en fait, où vraiment chaque mot, vraiment, ouais, est finement choisi pour que, en fait, cette phrase exprime vraiment ce que l'auteur ou l'autrice veut dire et pas une autre phrase, quoi. C'est vraiment cette phrase et aucune autre.
Super. Eh ben, parmi les autres spécificités de la littérature, on peut aussi noter une chose, c'est cette possibilité qu'on a de distinguer ce qui a été écrit du contexte.
Oui.
Par exemple, quand je suis en train de parler avec des amis, je ne sais pas, on est en terrasse, etc., bah, la parole, elle est toujours dans un contexte, elle est toujours parlée à un certain moment avec certaines personnes, etc. Alors que dans la littérature, la chose qui est un petit peu plus spécifique, c'est que le texte peut se balader de génération en génération. C'est pour ça qu'on peut lire encore aujourd'hui des textes qui ont 2500 ans. Et bon, parfois, ça devient has-been et kitsch, c'est normal. Mais parfois, on a l'impression que ça fait vraiment écho à des choses auxquels on pense encore aujourd'hui, etc. Et donc, d'après toi, peut-être qu'on peut encore en parler un petit peu, mais est-ce qu'il faudrait toujours ramener les textes littéraires à leur contexte ? Est-ce qu'on peut, justement, et ça c'est un débat qui a beaucoup eu lieu aujourd'hui, séparer l'artiste de son œuvre ?
Donc oui, ça c'est une question sur laquelle je discute beaucoup dans les milieux féministes notamment. Donc par exemple, quand je dis que j'étudie la philosophie, on me dit « oui, mais tu sais que tel auteur a fait tel genre d'acte sexiste, etc. » Bien sûr, mais il y a quelque chose que je dis souvent quand on me dit ça, c'est que si chaque philosophe, on mettait toutes les casseroles qu'ils ont à chaque fois, on n'étudierait vraiment plus personne. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, la majorité sont morts. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est même plus important de dire il ne faut pas les lire, il faut les boycotter, etc. Je pense que c'est plus utile. De toute façon, leur carrière est faite depuis longtemps. Donc, les boycotter ne servira à rien. Par contre, pour les auteurs plus récents, il ne faut pas du tout séparer l'œuvre de l'artiste, comme on dit. Parce que, comme on ne sépare pas le boulanger de ses actes sexistes ou que sais-je, enfin, je veux dire, ça me paraît évident. Et l'artiste n'a pas une sacro-sainte place de Dieu où tout devrait passer sous le joug de la figure de l'artiste.
Eh ben, merci beaucoup. Surtout que c'est une réponse assez nuancée, parce que d'une oui. part, on a cette idée de... De toute façon, les auteurs, les autrices qui ont écrit, effectivement, elles ont parfois commis des choses qui sont inadmissibles. Mais d'une certaine façon, on les lit quand même parce qu'on a l'impression qu'on peut aussi distinguer la personne dans sa dimension politique, sociale, et la personne dans sa dimension esthétique. Mais en même temps, il y a des limites. C'est qu'on ne peut pas, voilà, on peut pas lire n'importe qui, on ne peut pas... parler avec n'importe qui, parce que sinon ça serait tolérer l'intolérable et évidemment ça serait problématique. Et c'est pour ça que cette polémique existe encore et elle a existé depuis extrêmement longtemps. Je vais finir avec une petite question, Axel. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence ici.
Mais de rien.
Petite question, c'est quoi pour toi la philosophie ?
Ah, très grosse question et... très importante dans ma vie, puisque ben voilà, comme je l'évoquais plusieurs fois, j'étudie la philosophie en ce moment. Donc qu'est-ce que c'est la philosophie pour moi? C'est une part énorme de ma vie qui, je pense, même m'a permis aujourd'hui non seulement de me construire en tant que personne, de savoir sur des questions très pointues, en fait, vers quelle thèse je me sens le plus proche. Et il y a aussi ce côté où alors, ça peut être très paradoxal, mais même si c'est des questions, voilà, où quand on pose une question philosophique, on se dit oui, c'est une vraie question qu'on peut vraiment se poser dans la vie de tous les jours. Personnellement, ça me permet de prendre du recul, en fait, sur toutes les choses de la vie et de, moi, moins subir ce qui pourrait m'arriver, ce qui pourrait être dramatique pour moi. Ça me permet de prendre énormément de recul. Et si je devais répondre en une phrase, ce serait, ben, en fait, ça me permet de vivre, vraiment, et pas juste de survivre. C'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour moi. Depuis la terminale, ça m'a tout de suite plu. Et je suis très heureuse aujourd'hui de bientôt pouvoir en faire mon métier.
Eh bien, merci beaucoup, Axel. Donc,
merci beaucoup.
C'est sur cette remarque que se termine le 10e épisode de l'émission « Ça fait réfléchir ». Je vous remercie tout le monde pour votre écoute et vous pourrez toujours retrouver cette émission sur le site de radiocampusamiens.fr et sur le DAB+. C'était Julien, votre serviteur pour votre émission philosophique. Merci encore une fois, Axel, d'être passé.
Mais merci à toi.
C'était le dernier épisode de la saison avant de revenir en septembre, peut-être. Nous nous quitterons en musique. Au plaisir de vous retrouver. Peut-être encore. Et à bientôt.